L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonjour et bienvenue dans ce 244e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Aujourd'hui, je suis, comme Pierre, en différé, en direct approximatif de chez nous. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Cette émission est enregistrée le jeudi 1er décembre pour diffusion le dimanche 4. On va vous raconter, vous narrer l'actualité des deux semaines écoulées et on va commencer par des nouvelles internet et on va commencer avec Google. Google qui, suite à un arrangement avec 40 États américains, donc 40 parquets américains, a payé une amende de 292 millions de dollars.
392.
Qu'est-ce que j'ai dit, Pierre ?
200.
280.
T'en as oublié 100.
J'en ai oublié 100. Bon, je pense que pour Google, de toute manière, ça n'a pas changé.
C'est l'argent de poche.
C'est ça. Qu'est-ce qui a été reproché à Google ? Eh bien, tout simplement d'avoir continué à tracer ses utilisateurs, donc à continuer à enregistrer leur localisation, alors même que ces personnes avaient activé des options pour ne pas être tracées, pour ne pas partager leur géolocalisation avec Google. C'est une rupture du consentement au partage de données personnelles. Alors, que faisait Google avec ces informations ? Bah, évidemment, ce n'était pas clairement affiché. En tout cas, l'utilisateur ne savait pas que Google enregistrait sa position. Donc, qu'est-ce qu'ils en faisaient ? Eh bien, ça permettait quand même à Google de vendre de la publicité ciblée, donc en fonction de l'endroit où se trouve la personne.
Normal.
Donc, suite à cela, donc, comme je dis, un arrangement avec notamment le procureur de l'Oregon. Donc 40 États sur 50, c'est quand même pas rien. Alors, Google a dit que ce comportement n'était plus d'actualité avant que les parquets des États américains, donc des États fédérés, décident de poursuivre l'entreprise. Bon, c'est quand même grave et donc ça marque quand même un manque de confiance qu'on peut avoir envers Google et même d'autres entreprises qui ont comme argument phare le respect de la vie privée. Je ne citerai pas Apple, par exemple.
Oui, surtout qu'on en parle après.
Ce n'est qu'un système sur lequel vous n'êtes pas maître. Vous ne pouvez pas vérifier si les paramètres que vous activez ou désactivez sont bien pris en compte. Pierre, on parlait de Google, toi tu vas nous parler de Facebook ou plutôt de la maison mère, tu vas nous parler de Meta.
En fait, c'est parce que de toute façon, on ne parle plus vraiment de Facebook à chaque fois qu'on parle de l'entreprise qui a un problème, on parle de Meta. Facebook n'est qu'un produit de Meta. N'importe quoi ce qu'ils ont fait. Bref. C'est pratique, hein, ça permet de. C'est moins flagrant du coup quand on dit Meta fait de la merde. Oui, mais c'est qui Meta ? Non, c'est Facebook. Ah ! Pas la même chose. Bref, la CNIL européenne. Le Conseil irlandais pour les libertés civiles, je crois que c'est l'équivalent de la CNIL en Irlande.
Je ne suis pas expert en droit des libertés informatiques en Irlande.
Donc. Ce conseil a écrit à la Commission européenne pour dénoncer une utilisation abusive des données si profonde qu'il serait impossible pour le gérant de la technologie de se conformer à la nouvelle législation européenne. Et non, donc, c'est une ONG, excusez-moi, je fatigue, c'est avec les sigles, on s'embrouille. Donc c'est une ONG qui a épluché une affaire judiciaire qui a eu lieu aux États-Unis impliquant Meta. Et ils ont découvert dans ces pages... Dans des milliers de pages, ils ont découvert que les responsables de l'entreprise sont incapables de savoir comment les employés utilisent les données. Et un ingénieur aurait reconnu que, dans certains cas, il n'est pas possible pour les humains de comprendre ce qu'il se passe. et extrait, lorsqu'on lui a demandé de produire des informations sur ce que font 149 systèmes de données différents au sein de Meta et sur les parties de l'activité de Meta qui les utilisent, la société n'a pas été en mesure de répondre.
Donc Meta ne contrôle pas ce que fait le code de Facebook.
Ben, Meta, c'est tellement un gros conglomérat que non, il ne contrôle plus rien. Or,
Meta a inventé Skynet.
C'est ça. Mais là où il y a un souci, c'est que ben voilà, les nouvelles lois, notamment le DMA, le Digital Market Act, ne permettent pas de dire ben, on ne sait pas ce qu'on fait. C'est interdit, ça ne marche plus. On n'a plus le droit de dire ça.
Oui, parce que vous êtes quand même responsable de vos actes, une entreprise, et fût-ce par du code, ce code il a bien été écrit par quelqu'un ou généré par un autre code qui a été écrit par quelqu'un.
Tout à fait.
Il y a forcément un humain qui est à l'origine de ça.
Et donc, il y a quelqu'un qui doit être
responsable. Donc, il y a une responsabilité, exactement.
Donc, à suivre, on va voir que... on va voir ce que ça va donner. Parce que effectivement, si c'est non-respect du DMA, sanction, amende, sous-sous, à suivre.
Aux USA, et on revient avec Google, et Google Cloud qui s'implante dans les hôpitaux, Pierre.
Oui, alors pour l'instant, c'est pas encore trop le cas en France, mais ils essayent aussi. Hein. Donc aux États-Unis, Google Cloud, donc le produit d'hébergement de données et d'applications de Google, Google Cloud a décidé d'essayer d'attirer les hôpitaux pour qu'ils stockent leurs données chez Google Cloud. Donc il y a déjà des partenariats qui ont été annoncés pour dire oui, le système de l'hôpital va utiliser le Healthcare Data Engine de Google pour rendre les données de santé plus accessibles et plus exploitables. Alors j'ai du mal à comprendre ce que ça recouvre, et heureusement on a en Europe et en France en tout cas, on a des lois et des règles assez strictes pour les données de santé, mais... quand on voit que bah, même Google Cloud a pu se faire tamponner hébergement de données de santé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fuite possible. Quoi.
Et puis, aussi la tentative de cloud de santé avec Microsoft en France également.
Évidemment. Tentative qui a heureusement capoté.
Libre et gratuit en termes de logiciel, ce n'est pas la même chose, et le CERN souhaite le rappeler.
Tout à fait. Bah, alors, ça ressemble vachement à un rappel en interne, mais ça montre... Ils l'ont fait publiquement, donc tant mieux. Et ça permet de montrer un petit peu la... Je trouve que ça illustre la dangerosité des modèles commerciaux en vigueur maintenant. Parce que pendant pas mal de temps, c'était relativement facile de défendre le libre en faisant l'amalgame. C'est gratuit, tu regardes, t'as pas à payer de licence de logiciel, c'est trop bien.
C'est l'argument, vous n'allez pas enrichir, engraisser des multinationales, il y a quand même un double tranchant.
Voilà, en tout cas, c'est un argument qu'on pouvait beaucoup utiliser à une époque. Maintenant, ça commence à devenir plus difficile parce que ben, de plus en plus d'entreprises rendent leur logiciel gratuit avec des gros guillemets. Et là-dessus, je trouve l'article du CERN pas très bien écrit, c'est aussi pour ça que j'en parle. Je ferai un aparté après sur ça, parce que c'est pas une référence à utiliser du tout, hein, cet article. Mais donc, ils expliquent, ils ont eu différents cas de logiciels qui sont diffusés comme étant gratuits, sauf que... Et ben à chaque fois, les logiciels sont utilisés en interne et paf, ils se font coincer parce que ah ben oui, mais c'est gratuit pour un usage personnel, c'est gratuit pour un usage pour une petite équipe, c'est gratuit pour patati patata. Donc là, il y a des exemples qui sont donnés avec Slack, avec TeamViewer, avec Adobe et sa suite Creative Cloud qui ben d'un coup est passée payante, et du coup, bah non, l'offre gratuite ne passait plus, et donc, paf, Adobe a demandé au CERN de payer une licence en plus, ce genre de choses. Mais là où le CERN se trompe pas mal, je trouve, c'est cet article. Alors, si on reprend la première phrase du deuxième paragraphe, beaucoup de logiciels sont proposés au CERN sans contrepartie, et pas seulement des logiciels libres et open source. Oui, mais... Et là, la signification... Pardon, c'est même pas... C'est pire. Le FOSS, ils le traduisent par Freemium and Open Source Software.
Oui, là, il y a un gros contresens dans la traduction, effectivement.
C'est extrêmement gênant.
Le freemium, mais en fait, il y a un des modèles économiques du libre qui consiste à offrir du. Enfin,
c'est un modèle
une solution libre.
Logiciel.
Et ensuite, ouais, et ensuite vendre une partie non libre payante.
Ça, c'est plutôt ce qu'on appellerait open core, je dirais. Le freemium, pour moi, c'est, le... c'est. J'ai du mal à comprendre justement ce que.
Ça pourrait être la traduction, moi je le comprends.
Ouais, ouais. Mais, c'est... mais voilà, le CERN là fait justement un gros amalgame bien crade. Donc c'est pour ça que je voulais pointer l'article. C'est... Ben, donc certes, il montre bien, il montre des nouveaux modèles économiques ben, où regardez, c'est gratuit, et puis en fait, non, c'est pas gratuit pour tous les cas, et c'est la stratégie du dealer qui offre un échantillon gratuit au final. Et. Par contre, ils se prennent les pieds sur le tapis juste en ne sachant pas dire ce que c'est un logiciel libre. Donc c'est assez inquiétant, je trouve, de la part du CERN.
On revient à Meta et encore une amende. Cette fois-ci, ce n'est pas 392 millions de dollars, mais 277 millions de dollars pour l'entreprise Meta. Pour un leak qui a concerné un demi-milliard d'utilisateurs.
Exactement. Alors, donc l'amende est la troisième plus grosse sous le règne du RGPD. Mais je trouve quand même que c'est franchement pas cher payé. Il y a 533 millions d'utilisateurs qui ont vu qui ont été victimes de la fuite de données. Donc on est à un demi-dollar par utilisateur. Je trouve que c'est. Avis à ceux qui ont des comptes Facebook, vos données, a priori, du point de vue de la loi, toutes les données qui ont pu fuiter à ce moment-là, elles valent pas plus qu'un demi-dollar. Moi, je le prendrais un peu mal. Je l'aurais mauvaise.
Et on termine la partie Internet avec l'Europe qui continue d'investiguer sur la situation de TikTok.
Oui, il y a un gros sujet en ce moment autour de TikTok. Et j'ai remarqué que quand on en parle, les gens ne se rendent pas compte du problème avec TikTok. Alors TikTok, n'ayant pas de smartphone, n'ayant aucune forme de vie sur les réseaux sociaux, je ne suis pas le mieux placé pour en parler.
Et ayant plus de 20 ans.
Également, oui. Mais donc, c'est un service où les gens envoient des vidéos courtes et, entre guillemets, rigolotes.
Bon, voilà, c'est un bon résumé.
Voilà.
Enfin, moi, j'appelais ça Snapchat, mais bon, écoute, ouais, j'ai du mal à faire la nuance.
N'ayant pas connu Snapchat, j'ai du mal à comparer.
Moi, c'est comme ça que je comprenais Snapchat.
Et donc, le truc, c'est que l'application que l'on installe sur les mobiles, elle accède quand même à des données localement. Elle accède aux données de la caméra. Il y a des transferts de données qui ont lieu vers la Chine. Il y a du traitement de données, y compris des données sur des mineurs. Il y a tout un ensemble de problèmes légaux graves qui apparaissent. Et les pratiques de l'entreprise concernant les données en Europe, donc l'entreprise pour les données de TikTok, ces pratiques, elles sont pas très... réglementaire en Europe, justement, elle ne passe pas le RGPD. Donc, il y a un envoi de données, et TikTok, enfin, les envois de données en Chine, les entreprises chinoises qui ont un grand nom comme ça, en général, sont relativement bien liées avec le Parti communiste chinois. Donc, ça, là, on commence à partir sur des problèmes politiques. Ça devient aussi très rigolo. Donc, méfiez-vous des applications gratuites quand même. C'est gratuit, oui, mais à quel prix ?
On revient avec des activités vie privée après un premier morceau de musique. Nous allons écouter After Midnight de Paxton Pennington. Vous écoutez le Codex sur Radio Campus 106.6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. Tells me slip those shoes at your feet. Turn out the lights. That's the last rain before they leave you behind. Take one last look.
down the drive. Don't know where you're going, but I'm up for a ride. All is right after midnight. It's like the dog is lying. All is right after midnight. After hours begin, you search the crowd for a hand. In the outside hues, hoping for a new point of view. Cause lately I've been fighting melancholy. Lately I've been feeling burned out with reminiscing. Lately I've been watching days roll with no prediction. Maybe I'm just missing good times and bad decisions. It's so obvious now. I try to figure it out. Standing's not coming around.
C'était Paxton Pennington, After Midnight. Vous écoutez les Codex 12 sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslib.com. C'est la deuxième partie des actualités et on va parler plutôt Internet et vie privée. Et on va revenir en France avec la CNIL qui a donc condamné EDF à une amende de 600 000 euros pour violation du RGPD. Alors cela consiste essentiellement à les reprendre sur... leurs pratiques en termes de prospection. Donc, notamment, on leur reproche de s'être pas assuré du consentement donc, des prospects, donc des éventuels futurs clients démarchés par EDF. Donc, il n'y a pas eu de formulaire rempli. Et voilà, donc la CNIL est quand même vigilante là-dessus. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors, EDF a donc... répliquer pour se justifier que leur site était en fonte, en cours de refonte. Bon. Vous pouvez voir sur le site de la CNIL la décision et on vous laissera juger. Il y a également, tiens, d'un point de vue technique, c'est vrai que la CNIL aussi s'intéresse donc à la sécurité des mots de passe. Et notamment, il reprochait à EDF de hacher. Donc, les mots de passe sont stockés dans un système informatique, ils ne sont pas stockés en clair, en tout cas normalement, mais ils sont hachés, c'est-à-dire qu'on leur applique des opérations mathématiques qui font que à partir du résultat, vous ne pouvez pas retrouver le mot de passe d'origine, en tout cas l'information d'origine. Et ils leur reprochaient d'utiliser des algorithmes de hachage obsolètes, notamment l'utilisation de SHA-1 au lieu de SHA-512, même si d'ailleurs le SHA-1 était haché.
Haché, c'est-à-dire salé. Salé.
Était salé, pardon. Oui, il était salé. Salty. Donc on rajoute un élément d'aléa pour éviter des attaques par dictionnaire. Par exemple, si ça ne l'était pas, vous prenez des mots courants, vous les hachez, puis vous faites une vérification. Là, le but, c'est que ce ne soit pas possible.
Et également, il y avait aussi l'utilisation de MD5, sachant
oui,
que le
MD5, MD5 également.
Moi, c'est dans mon premier boulot, j'ai dû travailler pour remplacer les mots de passe MD5 parce que c'était obsolète. Donc, c'était il y a plus de 10 ans. Et là, Ben non, y a là c'est ils ont fait la migration seulement en 2021. Apparemment, non, en 2018. Ils ont fait la transition en 2018, donc une quinzaine d'années après la dépréciation du MD5 et le début de la reconnaissance comme quoi le MD5 n'était plus utilisable pour quoi que ce soit. Ils ont un petit retard, les mecs. Tout petit.
Pour ce qui est, pour revenir au traitement des données personnelles, à savoir que la CNIL a aussi tancé EDF sur l'utilisation des formules telles que les données personnelles seront conservées durant la durée nécessaire à leur traitement selon la finalité qui a été fixée. Donc,
Bah oui, c'est vrai, c'est mignon comme formule. On stocke les données le temps que c'est nécessaire.
ce genre de formulation ne passe plus auprès de la CNIL et ça également, on peut le considérer comme une bonne nouvelle.
Ah bah oui, c'est...
Alors, dans un registre qui peut être un petit peu plus tragique, Google a conservé des données américaines se renseignant sur l'avortement, en sachant que désormais,
Ah oui.
l'avortement n'est plus protégé au niveau fédéral suite à un revirement de jurisprudence de la Cour suprême. Donc, les États fédérés peuvent interdire l'avortement, ce qui a des conséquences dramatiques sur les droits des femmes et sur les femmes qui ont besoin de se faire avorter.
Exactement. Et il y a déjà des, il y a déjà des États qui commencent à envisager très sérieusement d'utiliser la moindre donnée en ligne pour prouver qu'une femme a fait appel à un service d'avortement. Et donc là, le fait que Google ait stocké des données comme ça, donc c'est un groupe militant qui a démontré que Google, ben, gardait des informations sur les recherches d'orientation vers les centres d'information sur l'avortement. Enfin non, vers les centres d'avortement, pardon, et les itinéraires empruntés pour aller vers des plannings familiaux. Et sachant que cet été, Google avait annoncé avoir mis en place des nouvelles politiques pour protéger les données relatives à l'avortement et notamment supprimer l'historique des visites de centres d'IVG.
À savoir que notamment, il y a eu réellement dans des États où le droit à l'avortement était très restreint, l'utilisation d'historique Internet, d'historique web de femmes pour essayer de prouver qu'elles ont voulu se faire avorter.
Ça a été le cas, je crois, au Texas, notamment.
Il me semble, oui, ce genre d'État. Oui.
Oui.
LastPass, Pierre, deuxième incident de l'année.
Oui, j'adore ce genre de service. LastPass, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est vrai, il faudra que j'en parle dans une occasion, peut-être à l'occasion, parce que je ne sais plus si j'en ai déjà parlé. Mais un gros souci, c'est, ben, comme on a beaucoup de mots de passe à retenir sur Internet, c'est le paradoxe du mot de passe, c'est que le mot de passe doit être difficile à deviner, mais du coup, le mot de passe, les seuls à pouvoir bien les deviner, c'est les ordinateurs. C'est dommage, parce que c'est censé être quelque chose qui est là pour identifier un humain. Donc il y a un petit paradoxe sur le mot de passe quand même. Bref, donc LastPass, c'est un service en ligne qui stocke vos mots de passe. Alors, pour ma part, je risque jamais de stocker en ligne mes mots de passe, surtout chez un prestataire privé. Si je les stocke en ligne, je les stocke sur des machines que je maîtrise. Pas
Notamment
sur...
sur ton cloud personnel.
C'est ça. Mais là, c'est... Bon, ben voilà, si vous voulez stocker vos données chez eux, vous pouvez, mais c'est un peu sensible. Et donc en août, il y avait eu une première fuite, il y avait eu du code source et des informations techniques qui avaient été dérobées. Donc l'intrusion avait duré 4 jours quand même, hein, ça avait été révélé. Et ben là, ils ont découvert que ben, il y a eu une nouvelle fuite. Alors, pour l'instant, ils ne savent pas ils n'ont pas le périmètre de l'incident et les données consultées. Et ils indiquent aussi que, bon, promis, les mots de passe des clients, donc vos mots de passe, sont stockés avec un mot de passe maître qu'ils ne connaissent pas et ils ne peuvent pas, du coup, avoir été décodés sans que vous le sachiez. Mais ça reste quand même une très mauvaise. Comment dire? Mauvaise publicité pour une entreprise comme ça, et ça, je trouve que ça illustre à nouveau le danger de, ben, de confier des données très sensibles, genre, ben, tous les mots de passe, à des tiers comme ça. Est-ce que c'est un vrai tiers de confiance? Ben, comment on peut déterminer le niveau de confiance à lui accorder? Il n'y a pas de bonne
Sachant que
réponse, hein.
la source, ouais, il y a un vrai problème également avec l'authentification.
Oui.
Les mots de passe trop compliqués finissent par être notés, trop simples, bah, ils peuvent faire l'attaque, l'objet d'une attaque brute force. Donc, c'est un sujet qui est complexe.
Ah oui, oui.
Tu disais, il n'y a pas de réponse simple. Et Pierre, tu veux nous partager le fait qu'Apple devient une entreprise publicitaire.
Oui, alors, on va parler des...
Dont on se gargarise de sa politique voilà, de protection des données personnelles et de bloquer les ventes non autorisées de données personnelles à des fins publicitaires.
Oui, mais en fait, notamment, ils ont fait une campagne de publicité, donc le App Tracking Transparency. C'est une nouvelle fonctionnalité qu'ils ont mis en place sur leurs iPhones pour dire « Oui, on empêche les applications de vous pister, on vous protège. La vie privée, c'est le point fort de l'iPhone. » Voilà, c'est ça notre ADN, c'est la protection de la vie privée. Bref, on fait tout un pataquès sur ça. Et étonnamment, depuis l'introduction de cette fonctionnalité, donc l'ATT, les revenus publicitaires d'Apple sont passés donc de 300 millions de dollars par an en 2017 à environ 4 milliards par an actuellement, et ils prévoient 30 milliards en 2026. Donc, c'est étonnant. Vous introduisez une fonctionnalité pour protéger la vie privée, et puis vos revenus publicitaires augmentent drastiquement.
Ceci est une révolution. Ils sont forts chez Apple. On ne parlera jamais assez.
Les régulateurs allemands sont en train de regarder s'il n'y a pas de l'abus de position dominante. Parce que justement, il y a un petit souci là. Vous annoncez un truc pour empêcher de pister les utilisateurs et du coup, c'est vos offres de publicité qui montent sur le marché. C'est bizarre. C'est une coïncidence, je pense, mais. Ah, c'est troublant les coïncidences.
Très troublant. On revient avec des actualités logicielles libres, bien évidemment. Après un second morceau de musique, nous allons écouter Laurence Danova, This Island. Vous écoutez le Codegnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. There's an island in my mind to visit when I'm low. Where there's peace from all the pain the world's come to know. Where I lay on sandy beaches, thoughts like water flow. And the sun touching the horizon, there's an afterglow. This island in my mind protects me from sorrow. Its gods are up and waiting out in the war. Beyond the blood red sky, people is sick and sore. Paradise lost within reach of my shelter choice. On a killing in vain, yeah. Voices silence, getting oppressive regime. Many have died, they're escaping. And religion is a weapon used to hurt those who want different. No, religion is an island, so the people say. And I wonder if my island needs God anyway. Trying to be blissfully unaware of its lies. It ain't real unless I see it with my own two eyes. Still I pray for all those hurting in their own confines. Feeling privileged yet powerless on the safe side. Staring at the stars that bind us in the black night sky. Wishing for a new reality where we'll explain. No more reasons to protest. No more lying presidents. No false prophets. No more Gaza in distress. No more fighting about religion. Treasure in what makes us human. On this island in my mind, guess I'm a bit naive. Generalizing all this pain and dead in my daydreams. Yeah, yeah, oh. We'll be right back.
And I wonder if my island needs God anyway.
C'était Laurence Danova, This Island. Vous écoutez les côtés gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslib.com. C'est la troisième et dernière partie des actualités. Et on va donc parler de sorties logicielles. Et on va commencer avec la sortie d'une distribution Linux. Pas la moins connue de loin, c'est la sortie de Fedora 37. Donc Fedora 37, donc je vous rappelle, Fedora qui est la version communautaire, la version bêta de Red Hat, édité désormais par IBM depuis qu'elle a racheté cette entreprise. Donc changement notable, le passage à GNOME 43, qui se sont mis aussi à la course au nommage comme les navigateurs Internet.
Ah ouais, sinon c'est has-been, hein.
Fonctionnalité intéressante dans le panneau de configuration, où vous pouvez voir en fait quel est l'état de votre machine d'un point de vue sécuritaire. Donc notamment, est-ce qu'il y a des mises à jour nécessaires qui affectent la sécurité de votre ordinateur.
Alors,
c'est plutôt dit comme ça, c'est plutôt pas mal. Alors, je suis pas allé creuser, j'ai pas installé une Fedora, mais je pense que avoir un check-up de votre système qui ne soit pas fait par un logiciel comme on trouve sur Windows, les Bitdefender et toute la Twim, moi je trouve que c'est plutôt une autre chose. Pierre, a priori, toi, tu voudrais nuancer un petit peu le propos.
Ah bah oui, parce que c'est intégré aussi dans KDE, ce genre de fonctionnalité. Je sais pas qui. Enfin, je sais pas quelle est la solution qui est utilisée pour créer ce rapport de sécurité, mais moi je suis pas du tout d'accord. Alors, je vais essayer de retrouver sur ma machine le rapport parce que ça sera plus clair.
C'était une bonne idée sur le principe. Alors après, peut-être que Pierre, tu as eu un avis sur la réalisation.
Ben oui, j'ai un avis sur la réalisation, c'est que ma machine est une machine avec un processeur AMD, parce que je trouve qu'Intel a fait de la merde pendant trop longtemps, et ben du coup, je me prends un avertissement, attention, votre processeur n'est pas supporté. Putain, c'est parce que oui, en fait, il vérifie la présence de certaines fonctionnalités spécifiques à Intel.
Effectivement, oui.
Non, ça ne va pas, c'est pas possible.
J'avoue que c'est un gros problème.
C'est pas possible. Donc j'avoue, je peux pas accepter de faire la promotion de ce rapport de sécurité dans cet état. C'est inadmissible pour moi. Voilà. Petite nuance.
Voilà. C'était la petite minute nécessaire de rappel de Pierre. Et on t'en remercie. Rififi à la Document Foundation.
Oui. Oui, parce qu'il n'y a pas tout qui va mal quand même. Allez, on va commencer par le recrutement. Prenons le point positif d'abord. Donc la Document Foundation, pour rappel, c'est l'organisation à but non lucratif qui s'occupe de chapeauter le développement de LibreOffice. Et donc
c'est une très belle mission.
Très belle mission. Mais on en reparlera après. Un peu après, ça se tape dans les pattes, c'est vraiment mignon. Mais donc là, pour commencer sur la partie soft, donc ils ont annoncé le recrutement d'un nouveau spécialiste en assurance qualité, donc quelqu'un qui va s'amuser à faire le suivi des rapports de bugs et de supprimer les doublons, repérer vraiment ce qui est le plus important, ce qu'il faut faire en priorité pour améliorer le logiciel. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, ce genre de recrutement. Par contre, en ce moment, ça se passe pas super bien au niveau de la Document Foundation. Donc, on va faire juste un petit rappel d'histoire. La Document Foundation a été créée en 2010 pour gérer le développement de LibreOffice, qui était alors un nouveau logiciel, qui était le fork d'OpenOffice. Et donc ça, le projet a clairement réussi. Ça va, aujourd'hui tout le monde utilise LibreOffice, en tout cas sous Linux, on ne voit plus d'OpenOffice nulle part. Normalement, tout le monde passe à LibreOffice plutôt qu'à OpenOffice. C'est une suite bureautique qui est énormément utilisée et qui, le nom est connu maintenant, tout va bien. Mais il y a deux, trois éléments qui font que ça se frite. Notamment, la Document Foundation est financée par un ensemble d'entreprises qui, elles, travaillent, font du vrai développement autour du code de LibreOffice. Et donc, elles, l'intérêt de ces entreprises, c'est qu'il y a un écosystème vivant autour de LibreOffice, et surtout un écosystème où on peut les rémunérer. Parce que c'est des entreprises qui vont vendre du support, qui vont vendre des services additionnels en entreprise, il y a des tas de trucs qu'on peut vendre autour, mais ben, il faut pouvoir les vendre. Et de plus en plus, il commence à y avoir un problème, c'est que les entreprises en question s'opposent aux décisions de la Document Foundation. Parce que ben, la Document Foundation commence à vouloir mettre des choses en avant, sauf que ça va à l'encontre de l'intérêt commercial des autres entreprises. Des fonctionnalités qu'elles étaient en train de développer, des fonctionnalités qu'elles développent et souhaitent vendre, et la Document Foundation qui commence à annoncer que c'est disponible gratuitement, ce genre de choses, ça peut être un vrai souci pour elles. Et donc, il y a tout un litige autour de tout ça. Il y a notamment eu le cas du projet LibreOffice Online, on en a parlé, il me semble, qui est... Alors, la Document Foundation souhaitait le mettre au placard, au grenier, pour dire, ben voilà, c'est du code qui n'existe plus, parce que, ben, effectivement, il n'y a plus de développement autour de LibreOffice Online, puisque Collabora, l'entreprise qui le développait, a décidé, ben, pour pouvoir le vendre et ben, gagner de l'argent avec son travail dessus, Collabora a décidé de le retirer, de ne plus développer sur LibreOffice Online, mais à la place de le mettre en avant Collabora Online. Donc il y a tout un premier litige autour de ça, il y a un deuxième litige autour du recrutement par la Document Foundation de développeurs directement. Et là, il y a deux points de vue, c'est que oui, mais s'ils recrutent des développeurs, est-ce que la Document Foundation finalement va pas se mettre à remplacer les entreprises qui contribuent à LibreOffice? Sauf que ça, elles veulent pas. Donc il y a un gros micmac actuellement. Ça va jusqu'à certaines personnes qui craignent la dissolution de la Document Foundation ou un fork, ce qui serait assez dramatique.
Dramatique, puisque ça diviserait les forces et l'effort de développement. Jamais bon pour un projet libre.
Non, surtout c'est un projet de cette taille. Donc à suivre, c'est pas le genre de nouvelles qui sont les plus plaisantes à lire. Donc on verra comment ça va se goupiller dans les prochains mois.
Bon, merci pour ce point. Nouvelles des communautés du libre. Et on termine, pas cette émission, mais les brèves, par une actualité. On va parler un petit peu de Windows, car le Windows Subsystem for Linux est désormais disponible en version 1.0 et pour tout le monde, Pierre.
C'est ça. Bah alors, bon, donc, petit rappel des faits, parce qu'on en a déjà parlé dans une émission précédente, normalement. Donc, Windows Subsystem for Linux, contrairement à son nom l'indique, ce n'est pas un sous-système Windows pour Linux, mais c'est Linux en tant que sous-système pour Windows. Et c'est, dans le jargon de Microsoft, c'est une solution pour pouvoir lancer un Linux sous Windows de manière transparente. Alors, l'intérêt pour Microsoft, c'est que les gens restent le plus possible sous Windows, et pour les outils de développement notamment qui ne sont disponibles que sous Linux, et ben regardez, ça marche tout seul, vous avez juste à cliquer ici et paf, vous avez une machine virtuelle Linux qui se lance de manière transparente et vous avez accès aux outils. Donc bon, pour les gens qui sont coincés sous Windows, voilà, c'est un outil qui peut vous sauver, donc on en parle. Mais effectivement, par contre, l'autre cas d'usage, c'est le but pour Microsoft, c'est vraiment diminuer le risque que Linux puisse prendre des parts de marché. Donc j'avoue que c'est pas le genre d'outil que je mettrais le plus en avant. Et là, dans les dernières nouveautés, il y a la possibilité de lancer des applications Linux graphiques dedans. Alors, j'avoue, ça m'a beaucoup surpris de voir que Microsoft travaillait là-dessus, puisque des applications graphiques sous Linux spécifiques qui justifieraient ça, j'avoue, j'en ai pas trouvé des masses. Donc voilà, Je suis assez mitigé hein, sur ce projet. Ce n'est pas le projet qui me met le plus à l'aise, puisque au final, si le noyau Linux bah, ne sert plus qu'à faire tourner en machine virtuelle sous Windows, on a perdu. C'est plus du libre.
Après, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des statistiques d'utilisation
Ça va être compliqué, puisqu'il faudrait vérifier s'il y a un lien aussi avec une baisse d'utilisation des distributions Linux. Est-ce qu'il y a eu vraiment des gens qui ont migré? J'ai pas la réponse.
Peut-être lors d'une prochaine émission. En parlant d'émission, c'était la fin des actualités, mais tout de suite, après un troisième morceau de musique, on retrouve la déguicalisation. Mais avant, nous allons écouter Megan Graney, So It Goes. Vous écoutez l'écho des loups sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre, et campusstyle.com.
Sometimes this life's an endless race. Pack up and move to another day. Why's it so hard just to feel okay? And I try to not feel small. Looks like I walk before I crawl. Thank you.
C'était Megan Granny. So it goes. Vous écoutez les codes igloos sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campusigloos.com. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. C'est l'heure de la dédicalisation. Pierre, Génode, un OS différent.
Oui, et alors là on enregistre l'émission, il est assez tard, donc je sens que je vais regretter d'avoir choisi ce sujet parce que c'est quand même pas le sujet le plus facile de l'année. Mais allons-y gaiement. Donc Génode, effectivement c'est un OS libre qui est un peu, beaucoup, complètement différent de ce qu'on voit d'habitude. Et c'est pour ça que je trouve que ça mérite qu'on en parle, parce que ben, pour une fois que des gens se posent des questions et essayent de faire avancer les choses, prenons-le de façon positive. Donc là, en plus, ben, si j'en parle, c'est qu'aujourd'hui, une nouvelle version de Génode est sortie, donc c'est l'occasion. Génode n'est pas un système d'exploitation, à proprement parler, c'est un quadriciel, en bon français, un cadre pour créer un système d'exploitation ad hoc. Pour créer des... c'est un système où on prend des tas de briques, des tas de bouts de différents systèmes, on les assemble, et on les régule, on interdit les communications, on limite les accès, on restreint, on compartimente, on isole, pour obtenir un système d'exploitation qui accomplisse la tâche demandée, et qui soit parfaitement fonctionnel. Alors, moi, je me suis beaucoup intéressé à Génode récemment, pour une fonctionnalité. Alors, j'espérais qu'ils sortent des images pour pouvoir tester facilement avec la version de novembre. Malheureusement, il y aura un petit peu de retard, donc ce sera plutôt sur la version de février. Mais notamment, ils s'intéressent au cas des smartphones. Et je trouve que leur approche du smartphone est assez intéressante. Ça mérite qu'on s'y attarde. Donc, dans le concept de Génode, alors, pour vraiment être très technique, c'est un ensemble de micro-noyaux. Il y en a plusieurs qui sont utilisables. Et par-dessus ce micro-noyau, on utilise notamment du noyau Linux ou d'autres noyaux de système d'exploitation qui, eux, intègrent les pilotes du matériel. Mais en fait, il y a une isolation déjà à ce niveau-là pour améliorer la sécurité du système et faire améliorer aussi, tant qu'on y est, la stabilité. Et là, ils ont un projet, c'est d'être compatible avec le PinePhone. Et c'est là où on voit ce que peut apporter ce genre de système pour cet usage. Alors, clairement, là, ce qu'ils mettent en avant, ce qu'ils indiquent, c'est pour des personnes qui ont, par exemple, des données extrêmement sensibles, des journalistes dans des pays...
où les libertés de la presse n'est pas franchement respectées.
Voilà, ouais, on va le dire comme ça. Donc, dans certains pays, pour les journalistes, il y a un vrai souci, c'est que le téléphone, la partie communication, appel, elle doit être complètement isolée du reste. Il ne faut pas que une application qui... Mettons, vous allez sur une page web, vous recevez un lien, vous l'ouvrez, c'est une page web véreuse qui essaye de prendre le contrôle du téléphone pour derrière accéder à l'historique d'appel pour retrouver vos sources. Gros problème, potentiellement problème mortel. Et donc là, l'idée... Alors ça, c'est un premier point de vue. Autre point de vue possible, c'est juste qu'un système d'exploitation mobile complet, c'est extrêmement gros, extrêmement lourd. Donc ça peut planter beaucoup plus facilement, alors qu'un système, typiquement ce qu'on appelle encore les feature phones, donc les téléphones portables mais non smartphones, les téléphones portables qui font que téléphoner et que SMS, c'est des systèmes qui sont beaucoup plus petits et qui peuvent donc être bien plus facilement vérifiés et optimisés. On enlève les bugs, il y a beaucoup moins d'interactions possibles, donc il y a beaucoup moins de bugs possibles. Donc là, ce que propose Génode sur téléphone portable, et je trouve que c'est une approche qui, moi en tout cas, me plaît beaucoup, parce que déjà pour le respect de la vie privée et pour les problématiques de stabilité, en fait, dans l'idée de ce système, c'est d'avoir donc la couche tout en bas qu'on ne manipule pas, donc un micro-noyau spécifique, et avoir en fait deux systèmes qui tournent en parallèle sur le téléphone. Un système qui fait la partie téléphonie, donc passer des appels, recevoir les SMS, envoyer des SMS, ou le partage de connexion, et un deuxième système en parallèle, qui lui va avoir le navigateur web, le lecteur de mail, l'afficheur d'image, ce genre d'outils. Et par une bascule au niveau de l'écran tactile, par un geste spécifique, pouvoir passer d'un système d'exploitation à l'autre de manière transparente alors qu'ils sont en train de tourner. Et je trouve l'idée très séduisante, ben, pour les gens qui sont soucieux de leur vie privée notamment, pour les gens qui ben, veulent un système qui marche, je trouve que c'est assez prometteur. Pour l'instant, le projet n'a pas encore de version utilisable directement, il faut encore tout compiler à la main, donc ils disent on fait ça parce qu'on n'a pas envie que les gens essayent trop maintenant, parce que c'est pas fini.
Ils veulent pas se donner une mauvaise réputation.
C'est ça, ben oui, on peut pas. Si tu donnes une mauvaise réputation au premier essai.
Mauvaise première impression, oui.
C'est ça.
Et comme il n'y a pas plusieurs occasions de faire une première impression,
ben vaut mieux se blinder dès le début. Mais voilà, je trouve que le projet, déjà, c'est bien que ce genre de projet existe aujourd'hui, parce que clairement, en ce moment, je trouve, dans le milieu de l'informatique, quand même, on s'emmerde pas mal sur les sujets de développement de systèmes d'exploitation, notamment. Il n'y a plus grand-chose qui s'y passe depuis quelques années. Donc, c'est bien d'avoir ce genre de projet. En plus, c'est entièrement libre. Ça réutilise des bouts de Linux, etc. Donc, il n'y a pas de réinvention de la roue carrée dans tous les sens. Donc, c'est un projet. Je vais essayer de suivre. Dès qu'il y a une version qui est disponible pour mon téléphone, je l'essaierai pour vous en donner des nouvelles.
Merci Pierre, et on attend que tu...
Et bien sûr, ça marche aussi pour PC. Alors, oui. C'est conseillé en machine virtuelle quand même, hein. Faites pas les cons, mais alors, ça marche.
Je vais voir effectivement, si vous regardez l'article dans Wikipédia, il y a l'exemple de l'IHM Sculpt, donc, qui est le système d'exploitation donc, basé sur Gnode et qui est édité par...
Les développeurs de Gnode.
C'est quand même assez déroutant comme
là de ça n'a rien à voir.
Ah, c'est pas spécialement vendeur. Enfin, si vous voulez. Non. Ah, par contre, si vous êtes, je ne sais pas, réalisateur de séries ou de films et que vous voulez donner à côté hacker, là, je pense que c'est pas mal.
Ah oui, oui. Effectivement, ça colle bien.
Alors voilà, donc il faut utiliser une machine virtuelle pour avoir une interface graphique complète.
Et puis essayer un peu le joujou. Mais voilà, je trouve que c'est dommage. Ce genre de projet mérite d'être plus connu, parce que pour certains usages, alors pour certains usages vraiment spécifiques, hein, dans l'informatique embarquée, là où il y a des besoins de solutions qui soient garanties fonctionnelles, en fait. C'est le truc qu'on a un peu abandonné, c'est bon, ça plante, c'est pas grave, c'est normal. Là où on a besoin que ça marche et que ça soit contrôlé, normalisé, attesté, je trouve que c'est un système qui mérite d'exister.
Merci Pierre pour cette délicalisation. C'était donc le 244e numéro de l'Écho des Gnous. Ce ne sera normalement pas le dernier de l'année, puisque je pense que nous ferons le 245e numéro le dimanche 18 décembre. Nous espérons en direct, c'est quand même ce que nous on préfère. En tout cas, nous, on vous souhaite une bonne fin de week-end et tout de suite, vous avez rendez-vous avec Chupa Pimento. On se quitte en musique avec Kinématique Peyote. Au revoir à tous, bonne fin de week-end.
Bye bye.
Tattoo.